bon dimanche et bon réveil sur France Bleu Orléans. Il est 8h. Le journal avec vous, Patricia Pourrez. Bonjour Patricia.
Bonjour André, bonjour à tous.
Et l'aventure Coupe de France continue pour les footballeurs de Saint-Privé-Saint-Hilaire.
Oui, ils se sont qualifiés hier soir pour les 16e de finale en battant Toulouse. Victoire 1-0 arrachée dans les dernières secondes du match et on l'a vécu ensemble sur France Bleu Orléans.
Allez, le coup franc dans le champ des réparations. Le but de Saint-Privé. Le but de Saint-Privé à la dernière seconde.
Et on va revenir dans ce journal, bien sûr, sur cette performance hier de Saint-Privé Saint-Hilaire. Dans l'actualité aussi, la piste terroriste se confirme après l'attaque au couteau à Villejuif vendredi. L'assaillant était bel et bien radicalisé. On parlera également galette des rois dans ce journal. C'est sans doute le jour où il s'en vend le plus, mais qu'est-ce qui fait une bonne galette? On a posé la question à un boulanger de Beaugency. La météo, André.
Beaucoup de nuages ce matin, une couche très épaisse qui va laisser place à de belles éclaircies cet après-midi dans le Loiret, accompagnées de 8 degrés en moyenne. Pour la deuxième année de suite, Saint-Privé-Saint-Hilaire va donc jouer les 16e de finale de la Coupe de France.
Oui, les amateurs de National 2 se sont qualifiés hier soir en sortant Toulouse, équipe de Ligue 1. Tout s'est joué dans le temps additionnel à la dernière seconde du match. Les Privatins qui avaient dominé la partie ont inscrit le but de la victoire à la 96e minute. Fin d'un match mouvementé, interrompu 10 minutes à cause de fumigènes lancés sur la pelouse par des supporters toulousains. Mais ça, c'est finalement anecdotique à côté de la performance de l'équipe de Saint-Privé. Pour le coprésident Jean-Bernard Legroux, c'est aussi beaucoup d'émotion.
Un président très très heureux, fier, parce que repasser en 16e, on voulait sortir une Ligue 1, on l'a fait. Les gars ont fait le boulot, tout le monde a fait le boulot, nous on a fait le boulot ici. Par conséquent, c'est exceptionnel. C'est l'aboutissement. 30 et quelques années de club et puis toujours là et une L1 au moins. Maintenant on a ramené une L1 et on l'aura battu au Grand Clos. Dans notre jardin, à la régulière puisqu'on a fait le jeu pratiquement. Bon, c'est dommage qu'on a eu un moment d'interruption où ça a peut-être un peu coupé, mais sinon on l'a fait. Ils ont d'un bout à l'autre, ils ont fait un travail énorme les gars, ils ont fait un jeu énorme. Là on est content d'être président, quand on a fierté comme ça, on gagne, c'est extraordinaire. On oublie tous les soucis là, tous les petits trucs, tous les jours. Non, là c'est on a gagné là. Et c'est super.
Et hier soir, les joueurs ont bien sûr fêté cette qualification avec leurs proches, leurs familles, des supporters de la première heure qui ont angoissé pendant plus de 90 minutes avant le soulagement final. Marine Protet a recueilli leur réaction au bord du terrain.
Angoissée, Corinne a passé l'intégralité du match les mains agrippées à la rambarde au bord du terrain. Cette habitante de Châteauroux a parcouru 150 km pour venir et être aux premières loges pour observer son fils Thibaut Plisson, le défenseur central, auteur de la passe décisive.
Je suis hyper, hyper contente. Ouais, il m'a fait chialer, ouais. On peine à réaliser, j'ai des messages de tout le monde, des amis, de la famille. J'ai mon frère qui est resté là-bas, j'ai eu sa sœur au téléphone, là. C'est pareil, elle n'en revient pas. Ouais, c'est une fierté.
Fierté aussi pour Réménès, le grand frère de Fulgi. Ici Kimbembe. Depuis toujours, il l'accompagne lors de ses matchs. Alors, au coup de sifflet final, c'est l'explosion de joie entre les deux frères.
J'allais courir dans le terrain, mais du coup, mon petit frère, il est arrivé. Il m'a sauté dans les bras et moi aussi, j'ai sauté aussi sur lui. Et j'ai dit, c'est bien, petit frère, je suis fier de toi. Lui, il était vraiment content. Il a dit, alors, je t'avais dit ou pas? J'ai dit, ouais, je sais, tu l'avais dit. Et ils l'ont fait.
Oui, ils l'ont fait. Et Mélodie, la compagne du défenseur Quentin Moutiapoulet, a encore du mal à y croire.
C'était de la folie. On a eu de la pression pendant tout le match et c'était juste énorme. On est super fiers de Saint-Privé. Je suis fière de mon homme, je l'ai trouvé exceptionnel en fait. Il était parfait, il a super bien joué, c'était géant.
Un avis partagé par le fils de Quentin Moutiapoulet, âgé de 6 ans. Il a un adjectif en tête pour décrire son papa après le match.
Fort.
Voilà, trop fort les Privatins qui ont donc créé la surprise hier soir en coupe en sortant une Ligue 1. Un autre petit club s'est aussi fait remarquer hier, les Réunionnais de la JS Saint-Pierroise qui ont battu Niort, pensionnaire de Ligue 2. Parmi les autres qualifiés pour les 16e, on peut citer Rennes, le tenant du titre, Lyon, Monaco, Nantes et Strasbourg. Cet après-midi, Marseille affrontera l'équipe de Trélissac dans le Périgord. Et ce soir, le PSG sera opposé à l'INAS Montlhéry, une équipe de Régional 1.
Et le tirage au sort des 16e de finale de la Coupe est lui prévu demain soir à Rouen. Les deux présidents de Saint-Privé et Saint-Hilaire ont d'ailleurs prévu d'y assister.
Toujours en sport, les handballeuses de Fleury sont à Nantes cet après-midi. C'est la 13e journée de Ligue féminine et c'est un match à enjeu pour Fleury qui est 4e du classement avec seulement 2 points de retard sur Nantes.
La piste terroriste est relancée après l'attaque au couteau vendredi à Villejuif.
Une attaque qui a fait un mort et 2 blessés. L'assaillant, un jeune homme de 22 ans, souffrait bien de troubles psychiatriques, mais d'autres éléments laissent à penser qu'il s'était radicalisé et qu'il avait préparé son passage à l'acte. Les précisions de Laure de Beaulieu.
De nombreux témoins qui ont assisté au parcours meurtrier de cet homme ou qui ont été menacés ont rapporté qu'il avait agi calmement avec une grande détermination. Un homme a expliqué avoir été contraint sous la menace de réciter une prière en arabe. Et puis l'enquête a déterminé que cet homme était radicalisé. Une lettre écrite comme un testament et des écrits répétitifs retrouvés dans son sac à dos viennent corroborer la thèse d'un acte terroriste. Il y a aussi la préparation très organisée du passage à l'acte que souligne le parquet antiterroriste. L'homme souffrait de troubles psychiatriques importants depuis l'enfance, mais il avait stoppé son traitement au mois de juin dernier. Zone d'ombre toutefois, ses activités pendant les 24 heures précédant son parcours meurtrier. Il n'avait plus de contact avec ses proches. Maintenant reste l'exploitation de son ordinateur et de ses appareils électroniques.
Oui, hier, le parquet national antiterroriste s'est finalement saisi de cette enquête.
Syndicats et gouvernement s'attendent de nouveau à une semaine chargée.
Et peut-être même décisive sur la réforme des retraites. Mardi, Édouard Philippe doit reprendre les discussions avant la nouvelle journée de mobilisation prévue jeudi. Hier déjà, les opposants à la réforme ont manifesté dans quelques villes en France. Ils étaient une petite cinquantaine à Orléans avec quelques gilets jaunes. À la SNCF, le conflit entre dans son deuxième mois avec aujourd'hui encore un trafic perturbé. On compte 2 TGV sur 3 en circulation et 1 TER sur 2. Donald Trump met en garde l'Iran. Le président américain menace de frapper fort dans le pays si Téhéran s'en prend à des personnels ou à des bases américaines. Hier déjà, des roquettes ont visé l'ambassade des États-Unis à Bagdad.
On la trouve déjà depuis des semaines dans les magasins. Mais c'est vraiment aujourd'hui qu'on peut déguster la galette des rois.
Oui, on est à la veille de l'épiphanie, donc comme le veut la tradition, on peut s'offrir une galette. Maintenant, le secret d'une bonne galette, c'est évidemment les ingrédients. Tout doit être de qualité, comme l'explique Franck Collas, boulanger à Beaugency. Il vient de recevoir pour la 3e fois le prix de la meilleure galette du Loiret.
Pour la fabrication, le feuilletage avec du beurre, le tourage avec du beurre rehaussé, la crème d'amande avec une vraie poudre d'amande, une sélection d'œufs, et après le restant, c'est du temps et de la patience.
Vos produits, ils viennent d'où justement ?
Alors nous, les farines viennent du Loiret, ils viennent du Moulin d'Ego, dans le 45, ils sont à Gien. Les œufs, ils viennent du 28, c'est un petit producteur qui produit ses œufs et qui les fabrique pour les laboratoires Pasteur en analyse. Donc c'est vraiment des œufs qui sont très très bien faits. Après le beurre, il vient de l'AOC, c'est le Charente-Poitou. Et après le restant, mais il n'y a pas grand chose d'autre. Après c'est du sucre et la poudre d'amande. Mais la poudre d'amande, elle vient d'Espagne. Ah non, il n'y a pas d'ingrédient magique. C'est une osmose d'ingrédients, on va dire. Mais c'est pas un ingrédient magique. Alors bien sûr, si on va dire la poudre d'amande, si vous achetez vraiment du bas de gamme ou c'est amer ou c'est pas génial, oui, là forcément vous allez vous dire oui en bouche, voilà, c'est pas terrible. Mais après sur le restant, c'est surtout une osmose de bons produits qu'on a pu acheter.
Voilà les bons conseils de ce boulanger à Beaugency et ça donne envie même au petit déjeuner.
FranceBleu.fr.
À écouter, à réécouter, à voir et à revoir, à lire et à relire. Tout France Bleu Orléans est sur FranceBleu.fr.